Laudetur Jesus Christus.
Un rendez-vous attendu au Vatican ce jeudi. Le pape Léon XIV a reçu en audience les membres du clergé de Rome, son diocèse, afin, a-t-il dit, de commencer à marcher ensemble. L'occasion aussi de leur livrer ses recommandations. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Dans le reste de l'actualité, les autorités indiennes tentent de retrouver des survivants après le crash d'un avion ce matin sur l'aéroport d'Ahmedabad. 242 passagers étaient à bord. Nous évoquerons aussi dans ce journal le rôle phare du sultanat d'Oman, médiateur dans le dossier épineux du nucléaire iranien. Et puis nous entendrons la prière pour la paix et l'unité de l'archevêque de Los Angeles, près d'une semaine après le début des affrontements entre la police et des manifestants sur la question des expulsions de migrants aux États-Unis.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, l'évêque de Rome à la rencontre de son diocèse, de ses prêtres et de ses séminaires. Trois semaines après la prise de possession de la basilique Saint-Jean de Latran, le pape Léon XIV a donc reçu en audience dans la matinée, en salle Paul VI, les centaines qui composent le clergé diocésain, afin, a-t-il précisé, de commencer à marcher ensemble, soulignant le regard universel de ce diocèse particulier de par son statut unique dans l'Église catholique et de ses prêtres originaires des quatre coins du monde. Léon XIV, Alexandra Sirgan, leur a livré trois recommandations.
Oui, Olivier, avec en premier lieu l'importance de l'unité et de la communion. Une communion presbytérale vécue en premier chef à Rome, où il est habituel de vivre ensemble, aussi bien dans les presbytères que dans les collèges ou dans d'autres résidences, a expliqué le pape, qui fut lui-même ordonné prêtre à Rome en 1982. Mais Léon XIV met en garde contre un climat culturel qui favorise l'isolement ou l'autoréférence, et face auquel personne n'est à l'abri. Il appelle ainsi à être vigilant aux obstacles internes qui concernent la vie ecclésiale du diocèse, les relations interpersonnelles, mais aussi ces obstacles qui habitent nos cœurs, reconnaissant là le sentiment de lassitude qui a pu s'installer chez certains qui ne se sont pas sentis compris et écoutés. L'évêque de Rome propose ainsi son aide pour que chacun retrouve la sérénité dans son propre ministère, mais demande pour cela un élan de fraternité sacerdotale. Deuxième recommandation, l'exemplarité. Le Saint-Père demande à chacun de s'efforcer à être des prêtres crédibles et exemplaires pour exprimer au mieux la force rénovée novatrice de l'Évangile. Enfin, le Saint-Père a exhorté le diocèse de Rome à regarder avec une clé prophétique les défis de notre temps, à savoir les violences, les inégalités, la pauvreté ou encore la marginalisation sociale qui touche le monde, mais aussi la ville éternelle, des défis à accueillir et à interpréter de manière évangélique.
Merci Alexandra Sirgan. Et dans notre journal à 18h ce soir, nous entendrons la réaction d'un prêtre du diocèse de Rome. Toutes nos informations sur cette audience sont bien sûr à retrouver sur vaticannews.va. Dans l'actualité internationale, cet avion de la compagnie Air India qui s'est écrasé peu après son décollage ce matin sur l'aéroport d'Ahmedabad dans le nord-ouest du pays. L'appareil devait relier Londres. Le bilan pourrait être très lourd puisque 242 passagers se trouvaient à bord. Les secours sur place sont sur place pour tenter de retrouver des survivants. Les précisions de notre correspondant Emmanuel Derville.
Le crash du vol AI-171 est un accident relativement rare en Inde où les compagnies aériennes ont plutôt une réputation de fiabilité. C'est la première fois qu'un Boeing 787 d'Air India s'écrase ainsi. La compagnie en avait reçu ses premiers exemplaires en 2006 et cet avion long courrier assure la plupart de ses vols vers l'Europe et les États-Unis, mais aussi vers l'Australie et le Japon. Le 787 perdu aujourd'hui avait été réceptionné en 2014. D'après le site Flight Radar, il avait volé tous les jours depuis une semaine. Son signal a été perdu juste après avoir quitté la piste d'envol. Les circonstances de l'accident restent à éclaircir. Les médias locaux ont diffusé une vidéo dans laquelle on aperçoit le Boeing éprouvant des difficultés à prendre de l'altitude juste après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad dans l'ouest du pays, avant de s'écraser dans un quartier résidentiel à 13h38 heure locale. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
Et ce crash est une tragédie qui nous brise le cœur, a réagi tout à l'heure le Premier ministre indien Narendra Modi. Le chef du gouvernement britannique Keir Starmer adresse lui ses pensées aux passagers et à leurs familles. 53 passagers de nationalité britannique étaient à bord. L'Iran annonce enrichir significativement son uranium. Téhéran a annoncé ce matin la construction d'un nouveau site. L'annonce a été faite après l'adoption par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, d'une résolution le condamnant les Iraniens pour non-respect de ses obligations nucléaires. Parallèlement, les négociations entre États-Unis et République islamique se poursuivent. Un nouveau round de discussion, le sixième, a été annoncé dimanche prochain par le Sultanat d'Oman, puissance médiatrice dans ce dossier sensible. Oman qui est un fin médiateur sur ce dossier. C'est ce que nous explique Kevan Gafaiti, il est enseignant à Sciences Po Paris, chercheur au centre Thucydide de l'université Panthéon Assas.
C'est quelque chose qui est fondamental et qui est dans l'ADN d'Oman. Il faut voir que le sultanat d'Oman, Mascate, donc, a une tradition diplomatique vraiment très très ancienne. Il faut voir que Oman est considéré comme étant la Suisse du Moyen-Orient pour une raison toute simple. Finalement, Oman est un peu à la croisée des chemins. C'est une monarchie arabe du Golfe Persique, mais qui entretient d'assez bons rapports et des rapports pragmatiques avec l'Iran. C'est aussi, il faut l'avoir en tête, une monarchie qui a sa propre vision de l'islam, qui est finalement assez proche, disons, pas nécessairement allergique au schisme duodécimain que l'on retrouve en Iran avec l'ibadisme. Et donc, vous voyez comment il y a des points de jonction. Typiquement, Oman est en général assez opposé à la politique très expansionniste de l'Arabie Saoudite, typiquement au sein du CCG, Conseil de coopération du Golfe. Et donc, vous voyez comment Oman a réussi à naviguer entre deux eaux. En 2015, les négociations secrètes bilatérales États-Unis-Iran étaient à Mascate, et on le voit aujourd'hui une nouvelle fois. Il y a eu quelques rounds de négociations à Rome. L'Italie à des rapports plutôt pragmatiques avec Téhéran, de meilleurs rapports, un peu plus chauds comparés à ceux de Paris. Et on peut quand même souligner le fait qu'à part un ou deux rounds en Italie, à Rome, tout se passe vraiment à Oman, à Mascate.
Un propos recueilli par Marine Henriot. Le président colombien Gustavo Petro accuse les États-Unis de vouloir fomenter un coup d'État contre lui. Il a repris une accusation de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, la bête noire de Washington. La Colombie qui traverse une nouvelle vague de violence avec la tentative d'assassinat de Miguel Uribe, un sénateur de droite la semaine dernière. Les manifestations se poursuivent, elles, aux États-Unis contre la politique migratoire de Donald Trump. Après Los Angeles, c'est la ville de Spokane, dans l'État de Washington, qui a instauré hier un couvre-feu. Le président américain a ordonné le déploiement à Los Angeles de 4000 réservistes de la garde nationale de Californie et de 700 marines contre l'avis du gouverneur californien démocrate. Hier, c'est l'archevêque de Los Angeles, Mgr José Gomez, qui a célébré une messe pour la paix et l'unité dans ce moment de trouble. Voici un extrait de son homélie.
My brothers and sisters in Christ today, we're united with parishes throughout the Archdiocese of Los Angeles in praying for peace.
Mes frères et sœurs en Christ, nous sommes unis aujourd'hui aux paroisses de l'archidiocèse de Los Angeles pour prier pour la paix, dans nos rues et dans notre ville. Nous vivons un moment difficile dans notre ville et beaucoup de nos voisins sont effrayés. Il y a trop de tensions, trop d'incertitudes et de violences. C'est pourquoi nous apportons aujourd'hui nos soucis et nos angoisses à Jésus et à sa mère, Notre-Dame de Los Angeles. Nous prions pour nos voisins qui souffrent, des hommes et des femmes bons et travailleurs, des personnes de foi. Nous prions pour la police et pour tous ceux qui risquent leur vie pour assurer la sécurité de nos communautés. Et nous prions aussi pour nos dirigeants politiques.
Mgr Gomez, l'archevêque de Los Angeles. Hier, la politique migratoire de Donald Trump, qui comme dans beaucoup de domaines est faite de contrats, les États-Unis ont ainsi signé un accord avec le Kosovo, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, pour qu'il accueille des migrants expulsés par les autorités américaines sur son sol. Le Premier ministre kosovar y voit un moyen de montrer sa reconnaissance éternelle aux États-Unis. Belgrade, Laurent Rouet.
Le Kosovo est le premier pays des Balkans à accepter des migrants expulsés des États-Unis. Si aucun détail n'a pour l'instant été révélé, le Premier ministre du Kosovo précise que le petit pays, l'un des plus pauvres d'Europe, se réserve le droit de choisir ses migrants parmi une liste proposée par les États-Unis. La nouvelle confirme des révélations parues dans la presse nord-américaine plus tôt ce mois-ci qui faisaient état de pression de Washington sur des pays d'Europe du Sud-Est, dont le Kosovo, la Moldavie et la Serbie, pour accepter des migrants. Interrogé, le ministre serbe des Affaires étrangères avait refusé de confirmer ces informations. Notons que les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir transférer des migrants dans les Balkans. L'an dernier, l'Italie inaugurait un centre de rétention pour migrants illégaux en Albanie, tandis qu'en mars, l'Europe ouvrait la voie à la création de centres pour migrants hors de ses frontières, avec les Balkans en ligne de mire. Des politiques critiquées par l'organisation Human Rights Watch. Belgrade, Laurent Rouy. Radio Vatican.
Et puis la reconnaissance d'un État de Palestine est essentielle, mais ne doit pas rester symbolique. C'est le plaidoyer de plusieurs ONG ce jeudi depuis Paris, dont le CCFD et Terre Solidaire, à quelques jours de cette conférence de l'ONU qui sera coprésidée par la France et les États-Unis. Des ONG qui réclament des mesures concrètes pour lever notamment le siège total de la bande de Gaza et un cessez-le-feu permanent. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité en ce journal de la mi-journée. Merci pour votre fidélité. Ce soir à 18h, vous aurez rendez-vous avec Xavier Sartre. Excellent après-midi à tous.